sommes jeudi 4 avril 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de Studio Kalangou. Je suis Nafissa Adam Sirfo au micro. Au sommaire, plus de 500 Nigériens refoulés de l'Algérie sont arrivés ce week-end dans la ville d'Agadez. Parmi eux, des enfants qui sont dans des situations critiques, selon un responsable régional du service de protection de l'enfance. Des précisions sont à suivre dans un instant. Le marché hebdomadaire de Dogondouchi, victime d'un incendie hier mercredi 3 avril. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs hangars ravagés par les flammes. Le magazine Environnement nous parle des initiatives mises en place à Tessawa pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Deux convois transportant plus de 500 Nigériens refoulés d'Algérie sont arrivés les 30 et 31 mars dans la ville d'Agadez. Parmi ces refoulés, 59 enfants non accompagnés ont été enregistrés par le service régional de la protection de l'enfant. Ces enfants sont venus dans des situations critiques selon Souleymane Issaka. Il est divisionnaire à protection des enfants au service régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez. On l'écoute au micro de Moussa Maman.
Nous avons reçu sur deux jours deux convois qui sont arrivés d'Algérie. Et dans ces deux convois-là, il a été profilé et mis à notre disposition 59 enfants non accompagnés. Ils arrivent, comme vous le savez, dans des camions ben. C'est très difficile, même pour des adultes, de supporter d'abord la chaleur qu'il y a dans ces camions et aussi à tout ce qu'il y a comme soubresaut lié à l'état de la route. Ces enfants-là nous arrivent dans un état de stress et peut-être même de traumatisme un peu élevé et auxquels il faut apporter urgentement une assistance. Ils viennent effectivement aussi avec des problèmes de santé, et ces problèmes de santé-là sont généralement des problèmes liés à l'hygiène chronique et qui a des répercussions effectivement sur leur peau. C'est ce qu'on appelle en médecine des dermatoses. Certainement un problème qui a commencé dès leur présence en Algérie, parce que là-bas, certainement qu'ils n'ont pas accès à tout ce qu'il faut comme infrastructure pouvant leur permettre de garantir leur hygiène quotidienne.
Et en bref, les autorités nigériennes, via le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, ont convoqué hier 3 avril Bikeda Mehdi, ambassadeur de la République populaire d'Algérie. Selon l'agence nigérienne de presse, je cite, au terme de cette audition, le secrétaire général adjoint du ministère a formellement exprimé à l'ambassadeur algérien les protestations du gouvernement et des plus hautes autorités nigériennes contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener des opérations de refoulement des Nigériens en Algérie. Fin de citation. 28 dossiers enrôlés, dont la majorité concerne les cas de vol criminel avec moto, véhicule ou en réunion suivie de meurtre. C'est la situation de la première session de la chambre criminelle d'Agadez au titre de l'année 2024 qui s'est ouverte le 12 mars et prendra fin le 15 avril prochain. Selon le président du tribunal d'Agadez, Ilyas Mahamadou, 18 dossiers ont été jugés, parmi lesquels 4 ont été renvoyés. Il est au micro de Moussa Maman.
Il s'agit de 28 dossiers à relais. Nous avons déjà presque la moitié parce que nous l'avons commencé à partir du 12 mars 2024. Et nous avons à peu près les 28 dossiers qui sont entre autres des questions de meurtre, des coups mortels et surtout des vols criminels. Nous avons un seul d'infanticide, mais la majorité de ces 28 dossiers, c'est des questions de vols criminels, c'est-à-dire vols souvent suivis ou précédés de meurtres avec armes, avec un véhicule motorisé et souvent en réunion. Depuis le 12 mars 2024 et jusqu'au 3 avril 2024, à peu près 18 dossiers ont été jugés. Nous avons très peu de renvois. On a 3 ou 4 renvois déjà parce que les dossiers ne sont pas en état, donc on les a renvoyés pour la session prochaine. La majorité, avec 3 ou 4, souvent avec 6 personnes, nous les avons jugés.
Je vous le disais dans les titres, à plusieurs hangars du marché hebdomadaire de Dogondouchi, ravagés par un incendie qui s'est déclaré hier mercredi 3 avril aux environs de 15h. On ne dénombre aucune perte en vue humaine, mais des dégâts considérables. Boubacar Makigoudou, maire de la commune urbaine de Douchi, pour le bilan au micro de Aliou Bawa.
Nous nous sommes rendus sur le lieu pour constater les dégâts. Pour le moment, on ne peut pas situer les causes de l'incendie. La police est saisie de l'affaire et une enquête est ouverte. Peut-être dans quelques jours, nous aurons les résultats de l'enquête. Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Mais concernant les biens, on a perdu beaucoup. Les hangars sont partis en fumée. Heureusement que ce n'était pas le jour du marché. Il n'y avait pas de céréales stockées. Quand le feu s'est déclenché, les gens ont pris leur courage à main pour éteindre le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Je saisis cette occasion pour remercier les sapeurs-pompiers et la population qui ont contribué à maîtriser l'incendie. Sinon, le feu allait brûler tout sur son passage.
Sur un tout autre plan, le collectif des organisations socio-professionnelles des médias privés du Niger a rendu public ce matin une déclaration de presse. Le collectif a fait le compte-rendu de sa rencontre avec le ministre de la Communication. Il a été question des conditions de vie et de travail des agents du privé. Souleymane Ousmane, coordinateur du collectif des journalistes de la presse privée, sur des propos recueillis par Rafia Mossi.
Vous n'êtes pas sans le savoir, depuis quelques temps, nous avons engagé une démarche responsable, celle qui consiste donc à approcher tous les acteurs de la presse privée et le ministère de tutelle pour voir, dans la mesure du possible, comment est-ce qu'on peut mettre les gens dans les conditions de vie et de travail. Les responsables des médias ont pris l'engagement de voir, dans la mesure du possible, comment est-ce qu'ils peuvent solutionner ces arriérés de salaire et l'immatriculation, mais également, pendant tout ce temps, des engagements ont été pris et nous sommes satisfaits également de ces différents rencontre. Après toutes ces étapes, puisque nous sommes à la veille de la fête du Ramadan, nous avons exigé aux patrons de presse de voir comment ils peuvent éponger quelques arriérés de salaire. Nous avons également exigé un audit général du fonds d'aide à la presse qui est octroyé depuis des années aux organes de presse privés de la presse.
11 conseillers de la commune d'Arlit ont signé et déposé une motion de défiance contre le maire de la dite commune le mardi 2 avril. Ces conseillers reprochent à leur maire plusieurs manquements liés à la gestion administrative et surtout financière. En réponse, le préfet a considéré que cette motion de défiance est inopportune et non recevable conformément aux instructions du message radio du ministre de l'Intérieur du 19 février 2024, instruisant entre autres les gouverneurs et les préfets à la arrêt de tout processus d'élection des maires jusqu'à nouvel ordre. Volet Ramadan, tout musulman pratiquant qui observe le jeûne du mois de Ramadan doit prélever la zakat al-fitr pour avoir plus de bienfaits dans l'accomplissement de son jeûne. Qui doit prélever la zakat al-fitr? À qui doit-on la donner? Oustaz Haladou Yahya répond au micro de Hawa Ousmane.
La zakat al-fitr ou aumône de la rupture, c'est cette aumône obligatoire instituée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui doit être prélevée par personne, qu'elle soit jeûneuse ou pas. Un père de famille peut prélever pour lui et pour toutes les personnes vivant sous le même territoire que lui, en raison de 4 mots de nabi par personne sur les produits alimentaires les plus consommés. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on prélevait dans l'orge, dans du fromage, du raisin, etc. Et cette aumône doit être remise aux 8 catégories de personnes qui peuvent recevoir la zakat, parmi lesquelles les faibles et les nécessités.
Souvent, à la rupture du jeûne du Ramadan, les grands consommateurs des excitants comme le thé et le café essaient de rattraper la journée en abusant de la consommation. Cela peut avoir des conséquences sur la santé selon les spécialistes en santé. Abdourazak Bello, nutritionniste, donne des précisions au micro de Hassan Nour Abdrahman.
La tendance à vouloir faire un rattrapage, à vouloir prendre ce qu'on n'a pas pu, c'est une mauvaise chose parce que les cafés et les thés, de façon générale, ont une influence négative. Lorsqu'on prend du café et du thé, on peut bien dormir, mais sauf que on aura un sommeil de mauvaise qualité. Et en accumulant le sommeil de mauvaise qualité, on va se retrouver à un moment donné avec une très grande fatigue. C'est ce qui explique souvent chez certaines personnes. Le jeûne peut générer de la fatigue, mais en réalité, ce sont nos habitudes alimentaires qui consistent à une surconsommation des produits excitants après la rupture. J'appelle aux utilisateurs du café et du thé, s'ils sont des gros consommateurs de café et du thé, vraiment c'est de profiter de cette opportunité du mois de Ramadan pour réduire. Parce qu'on a vu plusieurs cas de personnes qui ont profité de ce mois de Ramadan pour abandonner ou diminuer la consommation.
Lundi dernier, un accident sur l'axe d'Osso-Douchi a fait 3 morts. Hier, un autre s'est produit sur l'axe d'Osso-Gaya, faisant 1 mort et 16 blessés. Il a mis en cause un bus de transport en commun et un autre véhicule. L'adjoint-chef Kona Yakuba de la brigade mixte de gendarmerie de Dosso livre les faits au micro de Nana Adiza Hassan.
L'accident a eu lieu à 57 km sud de Dosso, sur la N7. L'accident a mis en cause un camion et un bus transportant 50 passagers à bord, y compris le chauffeur. Donc le chauffeur certainement s'est réveillé tôt. Au cours du trajet, il a été pris par un sommeil qui a coûté la vie d'un de nos concitoyens, faisant 16 blessés, dont 4 graves. C'est au cours d'un croisement que le chauffeur certainement pris par le sommeil a quitté sa droite, le chauffeur avec qui il s'est croisé, il a percuté. C'est prévu dans le code, le gouvernement aussi a prévu une vitesse modérée. Après la vitesse modérée, il doit avoir la distance de sécurité entre les usagers. Tout ça là, c'est mal compté par les chauffeurs. Le fait de quitter très tôt sans arrière-pensée, ils ne pensent même pas combien de vies ils transportent dans leur véhicule. Il roule à tombeau ouvert. Parce que le bus, même si vous constatez, même dans les grands centres, il roule à une vitesse incalculable. Il doit modérer.
Le magazine du jour. Agriculteurs et éleveurs dominent le monde rural au Niger. Obligés de cohabiter, ces producteurs ruraux se bagarrent souvent à la fin de la campagne agricole. Pendant la saison 2022-2023, des conflits ont éclaté à Baoudeta et Mejirgi. Bilan 11 personnes blessées. Pour consolider la cohabitation pacifique entre producteurs agricoles et pasteurs à Tissawa, les acteurs concernés prennent des initiatives de prévention des conflits. Le dossier de Habiba Ahmed.
À Tessawa, région de Maradi, les acteurs locaux s'engagent à trouver des solutions aux conflits champêtres. Un agriculteur suggère le respect de la loi. Il privilégie la sensibilisation et valorise le bénéfice mutuel.
Un éleveur me demande de laisser perdre son troupeau dans mon champ. C'est une bonne chose pour moi, car j'aurai au moins du fumier. Pourquoi nous bagarrer dans ce cas? La meilleure solution, c'est d'intensifier la sensibilisation. Et pour cela, nous allons impliquer les anciens, mais aussi les jeunes engagés pour transmettre le message de paix. En faisant cela, nous finirons par nous comprendre. Sans cet éveil de conscience, ces conflits ne finiront jamais.
Des éleveurs sédentaires accusent les pasteurs transhumants de violer les lois et conventions locales. Le président départemental de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger insiste sur la vulgarisation de conventions. Hardo Larbi Ahmed Moussa.
Toutes les conclusions des discussions de Tessawa seront transmises à tous parce que nous partons jusqu'à Gouré. Partout où nous irons, nous transmettrons les messages. D'abord celui de ne plus descendre avant l'heure. Et même s'il arrive que les éleveurs descendent, voilà les voies à suivre. Nous ne tolérons plus de bagarres. C'est la seule solution dont nous disposons actuellement. Que Dieu fasse comprendre à ceux qui veulent se rendre justice que la violence ne résout rien. Inch'Allah.
Malgré ces dispositions, des conflits éclatent souvent entre agriculteurs et éleveurs à Tessawa. Les chefs service gestion durable des terres à la direction départementale de l'environnement de Tessawa et membre de la COFODEP précisent 4 niveaux d'action. Lieutenant Sani Lawoli.
Il y a un premier niveau qui consiste à un règlement à l'amiable entre le gars qui a commis le dégât et le gars à qui on a commis le dégât. Si à ce niveau, on n'arrive pas à s'entendre, on peut passer à un deuxième niveau, aller soit vers le chef de village ou vers le chef de la tribu le plus proche de là où on a commis l'infraction. Il se peut aussi qu'à ce niveau-là, la conciliation n'arrive pas à être trouvée. Troisième niveau, c'est aller vers les chefs traditionnels. À ce niveau aussi, la conciliation ne peut pas avoir lieu et on part au niveau du quatrième niveau, la justice. Que ce soit au niveau de la chefferie traditionnelle ou au niveau de la justice, il y a les structures du code rural, la COFOCOM ou la COFODEP, on les envoie pour faire l'expertise en cas de dégâts.
C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous pour la suite de nos programmes avec nos journaux en langue nationale. Et à partir de 18h15, le forum de Studio Kalangou réalisé à Dosso par Nana Hadiza sur la situation épidémiologique de la méningite de la région. Quel dispositif de riposte? N'oubliez pas à réécouter les journaux et les magazines de Studio Kalangou. Appelez le 325 gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs CFA par appel via la puce RTL.